La prière, la vie de prière, est un mystère. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Non? Nous avons tellement de choses à apprendre sur la prière. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? En tout cas, les disciples ont compris tout de suite. Ils ont posé vite des questions à Jésus. Comment tu fais là? Comment tu pries? Et voilà que, d'un coup, on est face à une prière qui est énorme. C'est Jean 17. Enfin! On a une prière qui est écrite et elle est vraiment longue, quoi. Vous savez, il y a des personnes qui ont vraiment du mal à prier. Peut-être vous vous reconnaissez là-dedans. D'autres qui savent que oui, il faut prier, mais à la fin de la journée, il faut j'ai pas vraiment prié aujourd'hui. C'est pas si c'est important et en même temps dans le concret de ma vie. D'autres ont du mal à prier quand ils plutôt prient que quand ils ont des gros problèmes. Quand il y a des problèmes qui arrivent, tac, Seigneur, aide-moi, au secours. Je ne sais pas si vous faites partie de cette personne. Et d'autres encore qui ne savent pas trop quoi dire dans la prière. Ou quand ils prient, c'est tellement court qu'ils se disent, bon, j'en retire rien en fait de ce moment. On parle de relation avec Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment avoir une vie de prière plus profonde? Comment avoir une vie de prière qui nous permet de vivre quelque chose de profond avec Dieu? J'aimerais que nous voyons ensemble ce que Jésus, dans sa longue prière avant sa mort, nous dit. Je vous invite à lire juste les 5 premiers versets de Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus avait fait un long discours. Et là, il va faire une longue prière. Jésus leva les yeux au ciel et il dit, « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revête-moi de la gloire de ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Fin de notre lecture. Pour avoir une vie de prière plus profonde, je vous invite à avoir ici 4 points. Premièrement, prier avec foi. Deuxièmement, attendre le temps de Dieu. Ça nous rappelle un peu le témoignage là de Virginie. Attendre le temps de Dieu. Troisièmement, rechercher la gloire de Dieu. Et enfin, quatrièmement, développer avec Dieu une relation intime. Prie avec foi. Avant cette prière, Jésus, comme je l'ai dit, fait un long discours d'adieu pour préparer ses disciples à son départ. Je pense qu'ils ont vraiment du mal à comprendre. Jésus sait qu'il va bientôt mourir. Pourtant, sa prière est tout sauf pessimiste. Jésus fait une déclaration empreinte d'assurance par rapport à sa foi inébranlable et à sa gloire certaine. Léon Maurice a écrit ceci: « Nous percevons si souvent cette prière comme étant plutôt lugubre. Elle ne l'est pourtant pas. Elle émane de celui qui vient d'affirmer, vous verrez le verset juste avant, ou plutôt la fin du chapitre, le dernier verset, Jésus affirme, j'ai vaincu le monde. Cette prière émane de celui qui vient d'affirmer qu'il a vaincu le monde. Et elle repose sur cette conviction. Jésus envisage la croix avec espoir, avec joie et non avec découragement. Fin de citation. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que Jésus est tout content d'aller souffrir. Hein, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Jésus est content de ce qui va se passer après, du sens de la croix. C'est très fort de voir que Jésus, avant de prier, avant d'aller à la croix, ose dire à ses disciples, dans le monde, vous aurez des souffrances, bien des afflictions. Mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus prie avec un cœur rempli de foi. Il voit déjà la victoire qui sera acquise après ses souffrances et sa mort. Il prie comme un vainqueur. Vous voyez ? Si nous voulons avoir une vie de prière plus profonde, nous devons nous rappeler que Dieu contrôle toutes choses. Déjà avoir dans notre cœur la victoire de Christ, la victoire de Dieu sur notre situation, sur une situation quelconque. Dieu est au-dessus de tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il règne. Voyons Dieu grand, tout-puissant, tel qu'il est vraiment, afin que nos prières soient pleines de foi. Je répète, et ça, ça a été répété plusieurs fois, mais c'est tellement bien dit, de ne pas dire à Dieu que nous avons de grands problèmes, mais de dire à nos problèmes que nous avons un grand Dieu. Prions avec foi en ayant dans notre cœur la toute-puissance de Dieu, sa grandeur, qui il est. Jésus sait que sa victoire est proche, en fait, et que Dieu est avec lui. Mais il va quand même prier, mais avec une foi inébranlable. Deuxièmement, attendre le temps de Dieu. Jésus dit à Dieu, son Père, que son heure est venue. Il reconnaît que bientôt il va mourir. Accomplir ce pourquoi il est venu sur terre, pour que la gloire de Dieu éclate. Jésus priait certainement déjà pour cette heure. Tout au long de son ministère, il désirait ardemment que la gloire de Dieu éclate par sa mort et sa résurrection. Maintenant, il prie encore pour cela. L'heure est venue. Là, c'est différent. L'heure maintenant est venue. Si nous voulons avoir une vie de prière plus profonde, il nous faut apprendre à attendre le temps de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pas simple. Là, on est plus en difficulté. Combien de fois il nous arrive de prier, peut-être avec enthousiasme, avec zèle, avec foi, mais à force d'attendre, aïe, on baisse les bras. J'aimerais vous poser une question. Combien de sujets de prière as-tu laissés ? Nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. S'il y a bien quelque chose qui nous manque tous, c'est la patience. On est convaincus pour ça. Ah, ouais, ok. Dieu n'est pas un Dieu où on prie et la seconde même, paf, waouh, génial. J'aimerais bien, mais c'est pas comme ça. Et en fait, plus on creuse la Bible, ce que la Bible dit sur la personne de Dieu et notre problème du péché, plus on se dit, en fait, on a besoin que Dieu réponde en son temps. Et heureusement que c'est ainsi. Cela nous rapproche de Dieu, cela agit dans notre croissance spirituelle, cela nous pousse à être attachés à lui, à être confiants en ce Dieu qui nous servons. Cela nous aide aussi à ne pas voir Dieu comme quelqu'un qui, voilà, j'ai besoin d'une canette de coca, je mets la pièce et plaf. Dieu, c'est distributeur automatique, quoi. Hein? Dieu n'est pas comme cela, et dans ma manière de vivre, je vais l'apprendre. Fanny et moi, c'était vraiment dur dans l'attente d'avoir un enfant. Parce qu'on savait que voilà, il fallait faire toutes sortes de choses pour avoir un enfant. Mais on a appris à connaître Dieu de cette manière-là. Dieu n'est pas un Dieu. On a notre souffrance là et ça vient et on lui crie à lui, ça vient tout seul. Mais dans ces moments-là, on a connu la consolation de Dieu. La consolation de la famille de Dieu. Il y a tellement de bénédictions en fait derrière cela. Virginie, on pourrait prendre le temps de voir comment Dieu t'a béni dans ce moment-là. La souffrance, l'attente, pas simple, c'est vrai, mais Dieu nous forme pour lui ressembler davantage. Retenons ceci ce matin. La foi véritable, c'est attendre le temps de Dieu. Juste retenir ça. La foi véritable, si ta foi est véritable dans ce que tu attends de Dieu, bien sûr, si tu pries selon la volonté de Dieu, hein. Mais si ta foi est véritable, tu attendras le temps de Dieu. Si ta foi n'est pas véritable, tu ne crois pas vraiment, un jour ta prière s'arrêtera. Attendons le temps de Dieu. Troisièmement, recherchez la gloire de Dieu. Regardons comment Jésus s'y prend. Il commence par élever les yeux pour prier. Nous avons plus pour habitude de prier en fermant les yeux, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez une prière? Qui connaît une prière de la Bible où on ferme les yeux? Est-ce que vous connaissez un texte qui nous montre que nous devons prier les yeux fermés? Levez la main. Personne ne lève la main. Je me rappelle... J'ai une petite anecdote là-dessus. Je me suis rappelé de ça pendant que je préparais. J'étais dans un temps de louange. On préparait à la louange avec Sylvain Frémont et c'était plutôt avec je ne me rappelle plus son prénom, mais Rolf Schneider, voilà. Donc des personnes qui sont dans Jeunesse en Mission. On prend un temps de prière avant le temps de louange. Moi, je suis là, je vous prie. Et c'était pas la seule fois. Il a fait ça à plusieurs reprises. Il prie, mais il prie les yeux ouverts, quoi. Je fais, mais c'est quoi ce truc-là? J'admire beaucoup ce gars-là et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et je vois que c'est quelqu'un qui aime son Dieu, quoi. Et je dis, pourquoi il prie les yeux ouverts? Enfin, c'est même pas prier les yeux ouverts. Pour moi, est-ce qu'il prie, quoi? Il fait quoi? Nous, on est en train de prier, lui, il a les yeux ouverts, quoi. Hein, et on est là pour prier. Et j'étais surpris quand j'ai entendu sa prière. Entendre la profondeur de relation avec Dieu. Combien on peut vite, dans nos habitudes, hein, croire que c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement, hein. On ferme les yeux, donc c'est ça la vraie prière. Et puis si tu ne fermes pas les yeux, tu n'es pas vraiment un bon chrétien, tu vois. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux. Ah! Vous savez, lever les yeux à l'époque, Jésus était une attitude habituelle pour prier. En fait, si vous voulez être plus biblique, il faut lever les yeux là. Alors là, vous êtes vraiment proche du texte. Non, je rigole. Mais c'est juste de dire, il y a une multitude de manières de prier. Et nous devons trouver la position, la posture qui nous convient, mais pour que ça nous aide dans notre vie de prière. Moi, ça m'aide beaucoup, je ne sais pas pour vous, mais marcher. Je marche et je prie dans mon bureau, à la maison, j'aime marcher, ça m'aide à Bon, faut vous dire qu'au téléphone, je marche beaucoup aussi. Fanny, elle me dit, Manu, il faudrait que tu arrêtes de marcher là.
Alors c'est marrant parce qu'elle a fait la même chose une autre fois. J'ai bien rigolé.
Ça m'aide. Il faut trouver ce qui vous va le mieux. Mais il n'y a pas une attitude, une posture qui fait que d'un coup vous serez plus entendu de Dieu. J'ai prié à genoux, donc ma prière sera plus entendue de Dieu. Non, ça nous aide, nous. Mais Dieu attend de nous une prière de foi, de sincérité. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde le ciel dans un esprit de prière, cela m'aide beaucoup à voir la grandeur de Dieu. Et donc, voilà quelque chose pour moi de très pratique qui peut nous aider, n'est-ce pas? Hein? Je regarde et je vois tellement l'immensité du ciel, je me dis, waouh, Dieu est grand. Jésus lève les yeux au ciel, un geste par lequel il reconnaît certainement que le trône de Dieu est au ciel. Jésus prie. Il dit à Dieu son Père, glorifie ton Fils. Donne de la gloire à ton Fils. Manifeste la gloire de ton Fils. Fais éclater la gloire de ton Fils. Bon, Jésus dit de ton Fils, mais en fait, il est en train de dire quoi? Fais éclater ma gloire, hein? Il parle de lui. L'idée de gloire ici dénote généralement dans notre monde, hein, notre manière de comprendre, des ambitions personnelles, des accomplissements, des honneurs, de la célébrité. Dans l'Ancien Testament, la racine du mot gloire exprime l'idée de pesanteur et donc de poids ou de valeur. Il est utilisé pour décrire la richesse des gens. Waouh, il est riche, quelle gloire! La splendeur ou l'honneur d'une personne. Mais le concept le plus important est celui de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en fait la révélation de son être, de sa nature, de sa présence. Parfois, même dans l'Ancien Testament, surtout là, avec des phénomènes physiques, des phénomènes visibles. La gloire de Dieu, révélation de son être, de qui il est. Avant sa venue dans le monde, Jésus demeurait au ciel avec son Père. Quand les anges posèrent leur regard sur le Seigneur, ils virent toute sa gloire. Quand ils voient Jésus, c'est glorieux. À tout œil, il apparaissait. Jésus apparaissait comme Dieu. Mais quand il est venu sur terre, la gloire de sa divinité s'est voilée. Bien qu'il ait toujours été Dieu, cela n'était pas évident pour la plupart des hommes. Ils l'ont vu simplement comme, il est dit souvent, le fils du charpentier. Oui, c'est le fils du charpentier. Ici, le Sauveur, Jésus-Christ prie afin que la manifestation visible de sa gloire au ciel puisse être restaurée. Les paroles « Glorifie-moi auprès de toi-même » signifient aussi « Glorifie-moi en ta présence au ciel, que la gloire que j'avais avant auprès de toi, que j'ai partagée avec toi avant de venir sur terre, me soit rendue. » Mais Jésus ne s'arrête pas à sa gloire, à sa propre gloire. Il dit, fais éclater la gloire de ton Fils dans le but de, pour qu'à son tour, s'il est dit, le Fils fasse éclater ta gloire. Jésus désire que le Père lui-même soit glorifié et reconnu comme Dieu. Jésus ne redemande pas sa gloire pour lui-même. Comme toujours, son motif suprême est la gloire de Dieu le Père. De révéler dans toute sa splendeur, sa beauté, la beauté et la grandeur immense de Dieu le Père. Jésus a toujours accordé la priorité à la gloire de son Père en se soumettant parfaitement à sa volonté en toute chose, et cela jusqu'à la fin. Tout au long de son ministère, Jésus n'a cessé de chercher la gloire de celui qu'il a envoyé. Les événements entourant sa naissance ont glorifié Dieu. Ses miracles ont glorifié Dieu. Ses enseignements ont glorifié Dieu. Sa vie sans péché a glorifié Dieu. Ses souffrances ont glorifié Dieu. Il présentait constamment Dieu aux autres, aux foules, aux disciples. Sa vie sans péché, ses souffrances, toute sa vie, avait pour but de glorifier Dieu. Il ne vivait pas pour ce but, enfin, il vivait pour ce but parce que sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Sa nourriture, ce qui le satisfait, c'était de faire ce qui plaît à son Dieu, au Père. Mais pour aller plus au bout de cela, de son ministère, pour que la gloire de son Père éclate dans toute sa splendeur, dans toute sa totalité, il faut que Jésus achève son œuvre. Il dit dans le texte qu'il a achevé son œuvre, mais en fait, il voit plus loin. L'achèvement de son œuvre n'est pas ici, maintenant, mais l'heure est venue et ça va être achevé. On y va. Il faut que Jésus achève son œuvre. Il faut qu'il aille à la croix. Il faut qu'il rentre dans la plénitude de sa gloire, de sa puissance. C'est ainsi qu'il pourra révéler les perfections immenses de la personne de Dieu. Vous savez quoi? La gloire de Jésus-Christ a été manifestée lors de sa crucifixion. On se dit, mais c'est pas possible. Là où on applaudit le plus une personne, c'est sur un trône, sur quelque chose qui fait que, paf, on est là et dans l'admiration. Vous savez quoi? La crucifixion elle-même fait éclater la gloire de Dieu. Parce que la mort de Jésus-Christ nous révèle l'amour infini de Dieu. C'est cela qui éclate. Son pouvoir absolu sur Satan. La gloire de Jésus-Christ a été manifestée lors de sa résurrection parce qu'elle révèle la victoire complète de Dieu sur le péché, sur ses conséquences, et nous révèle le pouvoir absolu de Dieu sur la mort. La gloire de Jésus-Christ a été manifestée lors de son ascension, quand il est retourné auprès de son Père, parce qu'il révèle ici qu'il est Dieu. Toute la beauté de la grâce et de l'amour de Dieu éclate à la croix. Toute la plénitude de la puissance de Dieu éclate à la résurrection. Toute la plénitude de la gloire de Dieu éclate à l'ascension où Jésus reprend sa position. La crucifixion, la résurrection, l'ascension révèlent avec force la gloire de Dieu. Nous devons nous le rappeler ce matin. Nous y voyons la sagesse, la fidélité, la sainteté, l'amour, la compassion, la patience, la puissance de Dieu. Rien de mieux pour mieux connaître Dieu que de comprendre la profondeur du message de la croix. Un message inépuisable. Inépuisable. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Plus loin dans le texte, la gloire, c'est surprenant, est associée à la vie éternelle. Comme si la vie éternelle qui nous est donnée était une manifestation de la gloire de Dieu. En fait, quand des hommes et des femmes incroyants se convertissent, donnent leur vie à Dieu et manifestent la vie du Seigneur Jésus-Christ sur terre, Dieu en reçoit une très grande gloire. Si nous voulons avoir une vie de prière plus profonde, tout comme Jésus, notre vie de prière doit toujours avoir pour priorité la gloire de Dieu. Nous devons rechercher la gloire de Dieu. Demander à Dieu de révéler sa gloire au monde pour contempler la beauté de sa grandeur. Nous devons prier pour que le monde soit touché par la gloire de la présence de Dieu. C'est comme ça que vous faites quand vous priez pour vos enfants. C'est comme ça que vous faites quand vous priez pour quand vous partez au travail. Est-ce que vous êtes plus dans le sens que les choses aillent bien, le confort, ou est-ce que vous allez beaucoup plus loin en disant, non, en fait, je veux plus que le confort, je veux la gloire de Dieu. Je veux que Dieu se révèle. Parce que quand il est pleinement révélé, j'en suis pleinement satisfait.
En fait, c'est redire ce que Jésus avait enseigné à ses disciples sur la prière où nous l'avions vu, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit reconnu pour Dieu, que ton nom soit reconnu comme saint, que les hommes te rendent le culte qui t'est dû, que la gloire de ta personne soit manifeste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que tu sois révéré, honoré, admiré, contemplé, glorifié, chéri, respecté, préféré par-dessus tout, estimé, considéré, adoré. Je veux tout ça pour moi, pour ma famille, pour l'Église, pour dans mon travail. Je veux te voir, Seigneur. Révèle-toi, manifeste-toi. Que ma vie, ma manière de vivre, montre aux autres qui tu es. Cela est, est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. C'est cela que Dieu attend. Quatrièmement, développer avec Dieu une relation intime. Ce sera le dernier point. Voyons comment Jésus vivait cette relation et ce qu'il nous enseigne là-dessus. Jésus a commencé sa prière en disant « Mon Père ». Ce nom qui est sa consolation, qui est sa consolation suprême, certainement, en présence de la mort qui approche. Il prononce 6 fois, avec amour, le nom Père dans cette prière. Le fait pour Jésus de s'adresser à Dieu comme à son Père nous révèle quelque chose d'important sur la personne de Dieu. D'un côté, Jésus se fait lui-même égal de Dieu en déclarant qu'il est fils de Dieu. D'un autre côté, il démontre qu'il est distinct du Père. Il n'est pas lui-même le Père, étant donné qu'il ne se prie pas manifestement lui-même. Il prie son Père, mais il dit pas, il se prie pas lui-même. Il prend pas le, il ne se dit pas à lui, fais ça, etc. Je rappelle que la Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous aurons l'occasion, dans les prochains messages, d'approfondir ce sujet complexe de la Trinité, mais combien important pour notre adoration et notre vie d'Église. En s'adressant à Dieu en tant que Père, Jésus reconnaît sa soumission au Père et sa dépendance de lui. Il met l'accent sur sa communion intime avec le Père. Ce genre de relation Père-Fils et personnel avec Dieu est tout à fait étranger aux Juifs de l'époque de Jésus. Les Juifs s'étaient formés une perception distante de Dieu, une perception qui exigeait que des anges transmettent des messages. Les gens avaient cessé d'employer le nom de Dieu, de peur de prendre son nom en vain. Dans ce contexte précis où les gens parlaient de Dieu en employant des titres substituts, Jésus a tout simplement appelé Dieu son Père. Ses disciples ont appris cela. Et nous devons aussi, nous, appeler Dieu notre Père. Si nous avons placé notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui fait de nous des enfants de Dieu. Plus loin, Jésus dit une vérité profonde. La vie éternelle est que l'on connaisse Dieu. Le thème de la connaissance de Dieu est très fort dans cette prière. Jésus prie pour que l'on connaisse le Père. Il affirme qu'il n'y a rien de plus important que de connaître Dieu. Il commence sa prière avec l'importance vitale de la connaissance de Dieu, la connaissance de la gloire du Père, et il termine en rappelant qu'il est celui qui a révélé la gloire et qui a fait connaître le Père. Il ne s'agit pas simplement de savoir que Dieu existe ou d'avoir entendu parler de lui. Tu connais le président, ou tu connais... Oui, je le connais. Vous prenez le café ensemble, vous discutez de temps en temps. Non, mais je ne parle pas de cette connaissance-là. Je parle de... Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que vous êtes des amis? Est-ce qu'il y a une relation, là? Soit on connaît Dieu intimement, écoutez ça, soit on connaît Dieu intimement, soit on ne le connaît pas. C'est très radical. Connaître Dieu, ce n'est pas fréquenter de temps en temps l'église, le culte, venir de temps en temps ici, lire quelques pages de la Bible, et puis voilà. Dieu se connaît intimement ou il ne se connaît pas. La connaissance qui donne la vie éternelle est une connaissance personnelle du seul, du vrai Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous pardonner et nous donner accès à sa présence. La vie éternelle est une connaissance personnelle du Dieu devant qui on s'est repenti, du Dieu que l'on a écouté, du Dieu qui nous donne l'assurance de sa présence, du Dieu que l'on apprend à suivre, à obéir avec un cœur reconnaissant, du Dieu avec qui nous avons une relation intime. Connaître le Père, c'est aussi l'aimer, se savoir aimer de lui. Et vous savez, le verbe connaître dans la Bible est un synonyme d'amour tellement fort. Il exprime avec force la profondeur d'une relation personnelle établie. On le lit dans le verset 26. « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. » Quelque chose d'intime. Connaître Dieu, c'est avoir une vraie relation avec lui, profonde, intime. Si nous voulons avoir une vie de prière plus profonde, nous devons développer notre relation intime avec Dieu, comme Jésus le vit avec son Père. La prière doit être relation avec Dieu. Apprenons à parler à Dieu, tout simplement. J'avais lu un jour un livre et il disait « Arrêtons les protocoles ». Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le sens, quand on va vers quelqu'un, moi je parlais avec quelqu'un, « Ouais, comment tu vas ? Bon, on va prier. Seigneur, nous te demandons... » Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vis une relation et ou est-ce que d'un coup il faut que la relation avec Dieu d'un coup fait que tu parles différemment, que tu as un langage différent, que d'un coup il y a comme une recherche de belles phrases, etc. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi directement, hein, que quand on entend de telles prières, hein, je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement apprenons à parler avec Dieu, vivre cette relation, plutôt que de venir dans sa présence dire bah, attends, il faut que je prie bien, il faut que je dise bien ça, il faut que je fasse attention parce que, etc. Je parle avec toi, je parle avec mon frère, ma soeur, et puis d'un coup on se dit bon, on va prier, Seigneur, merci pour ce temps, c'était génial, on a passé un bon moment. J'aime Dieu, j'ai cette relation d'ami avec lui, tout en respectant ce Dieu qui me dépasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Soyons, vivons cette relation. Apprenons à partager avec lui toutes nos expériences de vie. Au cours de la journée, apprenons à lui dire ce que nous faisons, ce que nous pensons. Nous pouvons parler avec Dieu en faisant nos achats, en travaillant, en accomplissant n'importe quelle autre tâche de notre vie quotidienne. Apprenons à inclure Dieu dans ce qu'on vit. Voici une manière très simple de faire pour nous aider. De nombreux frères, au cours des siècles, ont prononcé des prières qu'on appelle prières dans un souffle. Et prières dans un souffle, ça veut dire quoi ? C'est en fait, nous choisissons par exemple une petite phrase que nous disons à Jésus dans un souffle. Ça ne veut pas dire qu'on répète constamment cette phrase. Nous pouvons dire plusieurs choses, mais c'est tout simplement, je suis en train de travailler, je suis en train de faire. Et puis je dis, Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Et je continue mon travail. Je suis en train de faire les courses et Seigneur, merci pour ta grâce. Et puis, voilà, je me retrouve avec Fanny, avec Noé, et puis on a une situation d'ici, on dit, Seigneur, on a tellement besoin de toi. Révèle-toi à moi. Je veux mieux te connaître. Aide-moi à te faire confiance. Des petites choses, un petit souffle comme ça, plusieurs fois dans la journée, nous aide à vivre cette relation. Je dis cela parce que c'est pour enlever peut-être dans vos esprits qu'il nous faut constamment avoir des prières longues. C'est important d'avoir des temps personnels avec Dieu, que nous avons le matin, à midi, ou là où vous pensez que vous pouvez avoir ce rendez-vous avec Dieu. Mais dans toute la journée, apprenons à inclure Dieu dans notre quotidien. J'ai su que des moines avaient pour habitude de prier toutes les heures à l'aide d'une horloge qui sonnait. Ding, ding, ding. Seigneur, merci pour... ça peut être quelque chose qui peut aider. Je ne dis pas de le faire, mais si ça peut vous aider. Il y a des personnes qui utilisent des post-it, par exemple, et ils écrivent dessus, Dieu est avec moi en cet instant. Tout simplement se rappeler, s'aider par des choses pratiques, à se rappeler que Dieu est avec moi au quotidien. C'est tellement bénéfique de vivre cette relation avec Dieu au quotidien. Donc si nous voulons vivre une vie plus profonde, développons cette relation intime avec Dieu. C'est tellement indispensable. Je conclus, pour avoir une vie de prière plus profonde, nous devons donc apprendre à prier avec foi, attendre le temps de Dieu, rechercher la gloire de Dieu et développer avec Dieu une relation intime. Dieu notre Père, cette prière de Jésus est tellement touchante. Nous voulons apprendre de toi pour avoir une vie de prière plus profonde qui t'honore. Apprends-nous à prier avec foi, à attendre ton temps, à rechercher sans cesse ta gloire et à développer avec toi une relation intime. Merci encore, Jésus-Christ, pour ta mort, ta résurrection qui nous révèle la gloire de ta grâce et de ton amour. Seigneur, continue à te révéler au monde pour que plusieurs se tournent vers toi et jouissent de ta présence pour l'éternité. Amen.